j'ai dû louper un épisode. Les interviews de Pascal Fourier. Aujourd'hui, deuxième partie de l'entretien réalisé le 12 janvier avec Jacques Sapir, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Je vous rappelle le contexte. J'étais allé voir Jacques Sapir un an après notre entretien précédent pour faire le point sur la crise et j'avais orienté notre conversation à la fin de sa première partie sur le chômage. Peut-être vous souvenez-vous des dernières paroles alors de Jacques Sapir. Tout parti qui se bat pour le maintien du libre-échange et pour le maintien de la politique monétaire telle qu'elle est aujourd'hui est en contradiction avec l'objectif du plein emploi. Eh bien, c'est sur cette question du plein emploi que je l'ai relancé, un peu candidement sans doute. Et ça nous amène, vous le verrez, à l'Union européenne, à la perspective de l'éclatement de la zone euro, au questionnement sur l'éventualité de la sortie de la France de celle-ci et au Front National. Bonne écoute. Est-ce qu'il y a eu un renoncement au plein emploi pendant un certain temps par les politiques et avec à ce moment-là quelle vision de on pourrait presque dire de l'architecture économique internationale? J'ai jamais trop bien compris.
Alors là, je veux dire, il n'y a pas de cohérence, mais il est clair que en 1983, une partie du gouvernement français fait le choix du chômage de masse en considérant que ceci est un épisode que l'on espère transitoire à l'époque. Hein. Ça, personne ne pensait que ce chômage de masse durerait 25 ans. Mais que l'on espère à l'époque limité afin de provoquer un phénomène de désinflation en France. Bien. Mais ce qui était au départ une politique temporaire, et donc on a parlé de résignation au chômage, c'est pas du tout une résignation, c'est une volonté délibérée de provoquer du chômage dans la société française. Hein. Il n'y a aucune résignation, il y a bien une politique. Mais ce qui était une politique qui visait un certain objectif, bon, qui de ce point de vue-là avait une cohérence, je ne dis pas ça pour excuser les gens, mais je dis, ils étaient cohérents avec eux-mêmes. Ils avaient fait de la désinflation le principal axe de leur politique, donc pour cela ils devaient passer par du chômage. Bien. Le problème, c'est que cette politique est devenue structurelle. Ce qui aurait dû être, grosso modo, un mauvais moment à passer de quelques années, s'est transformé aujourd'hui en une politique structurelle. Car on voit bien que de désinflation en désinflation, nous sommes rentrés dans la zone euro, et dans la zone euro, nous sommes rentrés dans une logique de basse pression économique généralisée. Alors, il y a toujours des arguments par rapport à cela. On va dire, si le franc était resté en dehors de la zone euro, nous aurions été obligés de payer au marché une surprime en termes de taux d'intérêt par rapport à l'Allemagne et par rapport à la zone euro. C'est absolument incontestable. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est absolument vrai. Mais le vrai problème, c'était pourquoi a-t-on ouvert l'économie française au marché financier? Pourquoi n'est-on pas resté dans le système, si vous voulez, de marché segmenté et extrêmement contrôlé que nous avions dans les années 70, dans la mesure où la France n'a pas besoin de capitaux étrangers, puisqu'elle est exportatrice de capitaux? Si vous voulez, la balance nette des investissements français est positive politiquement, elle est négative économiquement, c'est-à-dire que il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, et donc ça veut bien dire que nous n'avons pas besoin de l'argent étranger. Alors il y a des pays qui, eux, en ont besoin. Hein. Et là, d'une certaine manière, ils n'ont pas d'autre choix que de rentrer dans cette logique des marchés financiers, d'une certaine manière, mais ce n'était pas le cas de la France. Et ça, c'est bien une responsabilité qui a été prise de nous faire rentrer dans la zone euro, alors qu'on peut toujours justifier avec cette histoire des taux d'intérêt, mais qui elle-même est liée à l'ouverture de l'économie française au marché financier. la zone euro se caractérise aujourd'hui par une politique monétaire extrêmement récessive, en réalité, et puisque l'on sait que dans la charte de la Banque Centrale Européenne, on a fixé comme objectif 2% d'inflation, je signale qu'il n'y a aucun objectif d'inflation qui soit nommément fixé aux États-Unis, et que la Banque Centrale des États-Unis, enfin la Réserve Fédérale, se fixe des objectifs en fonction de la situation. Bon. Et deuxièmement, nous avons surtout une clause de non-secours mutuel, hein, ce qu'on appelle la « no bail-out » clause, donc du non-secours mutuel, qui veut dire que chaque pays doit affronter ses problèmes budgétaires seul. Alors, d'abord, c'est une incohérence totale par rapport à une zone monétaire comme la zone euro. C'est une stupidité absolue. Bien. Dont on comprend quand même les racines. Grosso modo, les Allemands ne voulaient pas payer pour les autres. Mais fondamentalement, ce problème vient du fait que l'on a fait rentrer dans la zone euro des pays qui n'étaient pas prêts. Hein, et des pays qui étaient hétérogènes d'un point de vue économique. Alors, soit on prend ça en compte et l'on dit « oui, il doit y avoir une clause de secours mutuel », soit, in fine, ce problème porte en lui l'éclatement à terme de la zone euro. Mais concrètement aujourd'hui, la zone euro est bien la cause d'une tendance à la dépression globale. Et en fait, on voit bien que depuis 1999, les pays européens qui ne sont pas rentrés dans la zone euro ont cru plus vite que l'économie de la zone euro et que l'économie américaine a cru elle-même plus vite que celle de la zone euro, sans parler de l'économie japonaise, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, la zone euro est très certainement l'un des facteurs de récession et de dépression les plus importants en Europe.
Sans qu'il y ait d'espoir que cela change, hein.
Vous savez, personne ne sait ce dont le futur sera fait. Nous allons très certainement affronter une crise grave de la zone euro vers la fin 2010 ou le début de 2011. Nous en voyons d'ores et déjà les prémices avec le cas de la Grèce, le cas de l'Irlande, le cas de l'Italie. Ces situations locales ne feront que s'aggraver. Et nous serons face à une vraie crise de la zone euro. Bon, je pense qu'il est raisonnable de se donner comme horizon le printemps de 2011, même si on ne peut pas exclure que cette crise arrive plus vite ou qu'elle arrive vers la fin de 2011. Bon. Si vous voulez, je ne prends pas de pari sur les dates précises. Par contre, la question de cette crise est absolument indubitable. À ce moment-là, il y a deux solutions. Soit on décide de réformer la zone euro, et cette crise peut servir à quelque chose, mais concrètement aujourd'hui, on ne voit pas se dégager entre la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, un consensus qui soit réellement efficace pour réformer la zone euro. Soit cette crise sera le début de la fin de la zone euro. Et là, je pense qu'il est important de comprendre que, d'une certaine manière, ça pèsera sur l'élection présidentielle française. Si vous voulez, nous serons à ce moment-là très probablement confrontés au choix suivant, soit accepter une nouvelle vague de politique d'austérité qu'impliquera la politique monétaire européenne, soit prendre la décision politique de sortir de la zone euro. Et si vous voulez, j'ai très peur que face à ce choix, le conservatisme l'emporte et que vous ayez des discours du genre « Ah oui, mais bon, la zone euro, c'est effectivement pas très confortable, mais nous serions dans une situation encore plus délicate si nous étions dehors. » Ce que je conteste absolument. Je conteste ça absolument. Je pense que si nous étions hors de la zone euro, mais évidemment, avec des conditions financières un petit peu différentes de celles que nous avons aujourd'hui, et en particulier une convertibilité réduite à la convertibilité dite en compte courant, c'est une convertibilité uniquement basée sur les importations et les exportations et pas sur les mouvements de capitaux, nous aurions traversé cette crise dans des conditions qui n'auraient pas été plus mauvaises et qui auraient été globalement meilleures des conditions dans lesquelles nous l'avons réellement traversée. Donc voilà, je crois que ce sera le maintien ou pas de la France dans la zone euro sera l'un des thèmes importants de la campagne présidentielle de 2012.
Parfois, dans les moments fort peu gais que je peux avoir en lisant de l'économie, j'ai l'impression qu'à long terme, on pourrait dire, moi j'ai l'impression d'un déclassement définitif de l'Europe par rapport aux autres grandes zones régionales.
C'est pas un déclassement, mais c'est d'une certaine manière un rééquilibrage. Alors, si nous résumons sur le très long terme, il faut savoir que au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'Europe, qui est d'une certaine manière pour nous l'horizon dans lequel nous raisonnons, même si cet horizon ne correspond pas à l'Europe institutionnelle, ça veut dire avec la Russie, avec l'Empire ottoman, bon, etc., ne représentait qu'une part relativement réduite de la production mondiale, parce que la Chine et l'Inde représentaient des parts extrêmement importantes à l'époque. Ce qui a été anormal, c'est que dans le courant du milieu du XXe siècle, des pays comme la Chine, comme l'Inde, soient tombés aussi bas dans leur part du PIB mondial. Aujourd'hui, ils sont en train de remonter. Autrement dit, il y a un rééquilibrage qui se fait, et ce rééquilibrage est normal. L'autre problème, c'est est-ce que ces pays sont en train, effectivement, de nous rattraper d'un point de vue technique et technologique? Oui, dans un certain nombre de domaines. Ce qui pose d'ailleurs le problème de la concurrence faussée. La Chine et l'Inde disposent de réservoirs de main-d'œuvre extrêmement importants, et il en sera ainsi pour environ une génération, en grosso modo sur 25, voire 30 ans, ce qui va maintenir les salaires à un niveau relativement faible. En même temps, ils sont en train de nous rattraper du point de vue de leur capacité à maîtriser les techniques de production. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir produire à peu de choses près les mêmes produits que nous, mais à des coûts qui vont être très sensiblement inférieurs. Et c'est là où il faut dire, bah écoutez, ceci n'est pas possible. Ou plus exactement, vous ne pouvez pas vous constituer en prédateur du commerce international de manière durable. Un pays comme la Chine doit normalement avoir une balance commerciale équilibré. C'est-à-dire qu'il doit importer autant, à peu de choses près, que ce qu'il exporte. Et ça, si vous voulez, c'est une évidence quand on voit la taille du pays. Même chose pour l'Inde. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez, là encore, une dimension, si vous voulez, de concurrence injuste qui joue massivement en la faveur de ces pays. Et c'est bien pour ça que je dis qu'il va falloir mettre des droits de douane, et des droits de douane relativement importants. En comprenant aussi que les pays du cœur de l'Europe, les pays du cœur historique, peuvent très bien fonctionner d'une certaine manière en circuit fermé. Nous avons peu de choses, si l'on veut, à exporter vers le reste du monde. Alors, sauf peut-être évidemment des avions, et encore, parce que nous sommes aussi un gros consommateur de modes de transport, etc. Donc je pense qu'il faut abandonner cette attitude où l'on dit « mais si on met des droits de douane, alors nous n'exporterons plus vers la Chine ». Oui, bien sûr, nos exportations vont baisser, mais elles vont baisser de toutes les manières. Il vaut mieux anticiper ce phénomène et se donner comme objectif une consolidation et une reconstruction de nos industries dans les pays du cœur de l'Europe. Cette reconstruction, de toutes les manières, est nécessaire dans la mesure où il s'agit bien de définir aujourd'hui un nouveau paradigme dans l'usage des ressources. Et il est clair qu'il va falloir passer progressivement à des processus de production dont l'impact écologique global, alors que ce soit en termes de carburant, que ce soit en termes de déchets, etc., bon, sera beaucoup plus réduit. Là encore, il est clair que c'est des choses qui vont coûter de l'argent. Et si l'on veut réellement passer à cette industrie, je dirais, d'un nouveau type, il faut protéger le marché intérieur européen. Alors, c'est pour ça, si vous voulez, que je suis un ferme partisan d'un protectionnisme européen. Maintenant, concrètement, il faut comprendre que chaque pays va, d'une certaine manière, voir midi à sa porte. Qu'un certain nombre de pays d'Europe disent « Non, il n'est pas possible de passer au protectionnisme » ou « Bon, vous avez peut-être des problèmes, mais pas nous, pour l'instant, ils en auront peut-être d'ici 4 ou 5 ans, bon, etc. » Dans ce type de situation, il y a un vieux principe que connaissent bien les juristes, il vaut toujours mieux plaider saisi. Autrement dit, plaider en ayant le contrôle, d'une certaine manière, de la situation. Et c'est pour ça que je dis, il n'est pas du tout impossible que nous soyons obligés de mettre en place des droits de douane au niveau français pour obliger les autres pays à se poser le problème du protectionnisme européen. Parce qu'une fois que nous aurons des droits de douane au niveau français, ça va poser de tels problèmes à nos voisins qu'ils seront obligés de rentrer dans une négociation avec nous. Très concrètement, si nous mettons aujourd'hui des droits de douane de 20 ou de 30% sur tous les produits qui viennent de l'étranger, c'est une catastrophe pour l'Allemagne. Évidemment, les Allemands vont protester très violemment. Ou vous êtes sur une position de libre-échange fondamentaliste. Eh bien, vous restez en libre-échange. Nous ne sommes pas, vous l'êtes, tant pis. Ou vous menacez de mettre des droits de douane en rétorsion. Ah, mais ça veut dire que vous n'êtes plus sur une position de libre-échange fondamentaliste. Alors, très bien. Mettons des droits de douane coordonnés au niveau des pays peut-être du cœur de l'Europe, et puis progressivement au niveau de la totalité de l'Europe. Si vous voulez, il y a là un argument politique d'une très grande force. Bon, le problème, évidemment, c'est que ça va passer par un moment d'affrontement. Et c'est pour cela que, là encore, je pense que l'élection présidentielle de 2012 sera probablement décisive de ce point de vue.
Mais vouloir mettre en place des droits de douane, je suppose qu'on a, je vais dire d'une façon un peu bête, hein, quelque intérêt pour les gens. C'est-à-dire que vous savez comment vous êtes singulier dans le paysage économiste et fort peu repris par des politiques. Si les politiques cherchent plus l'intérêt, on pourrait presque dire, c'est peut-être un peu caricatural, des multinationales ou des intérêts des grandes forces financières plutôt que du salarié qui a besoin d'un travail, et donc on a besoin d'avoir le plein emploi, et bien il n'y aura jamais de mesures protectionnistes qui pourtant, effectivement, moi, logiquement, me semblent nécessaires.
Si vous voulez, comme je suis quelqu'un qui croit en la démocratie, je continue d'espérer dans le fait que les gens qui votent se rendront compte où se trouve leur intérêt, se rendront compte que leur intérêt, c'est dans le protectionnisme, au moins pour une majorité des Français. Bien sûr, il y a toujours des Français qui n'auront pas intérêt dans le protectionnisme, et pas simplement les multinationales. Hein. Il y a, si vous voulez, une couche ou une classe de gens, je ne sais pas si on peut parler de classe, peut-être, mais il y a une classe de gens qui correspond grosso modo à ce que Veblen appelait la classe de loisirs, et qui, elle, n'a absolument pas besoin du protectionnisme. Au contraire, elle a besoin du libre-échange, elle a besoin d'un euro fort, etc. Ça représente quoi? Ça représente 15%, 20% de la population, au grand maximum, probablement moins, en fait. Et il est très frappant que, idéologiquement, c'est cette classe qui a hégémonisé le débat. Il faut aujourd'hui briser cette situation qui est non démocratique en redonnant la parole, d'une certaine manière, à la majorité des salariés. Et il faut savoir une chose. Bon, c'est un phénomène qui aura lieu, qu'on le veuille ou non. Mais il peut prendre des formes extrêmement déplaisantes. C'est-à-dire que une chose serait effectivement d'avoir une politique cohérente économique qui soit réellement conçue en fonction des intérêts du salarié, etc. Et une autre chose, c'est d'avoir une politique xénophobe. Aujourd'hui, si les forces de gauche ne préemptent pas cette question rapidement, à la fois sur la question du protectionnisme et sur la question de la monnaie, il est à craindre, alors non pas en 2012, mais peut-être en 2017, que ce soit le Front National qui le fasse. Et de ce point de vue-là, je n'ai jamais cru dans l'histoire de la mort du Front National, ou plus exactement, la mort du Front National, vous savez, c'était comme celle de Mark Twain, la nouvelle de ma mort est quelque peu exagérée. Le Front National continue d'être un acteur du jeu politique en France, et cet acteur verra devant lui s'ouvrir une avenue, et peut-être même plus qu'une avenue politiquement, si en 2012, nous ne sommes pas capables, si vous voulez, d'intégrer ces dimensions de protectionnisme et la dimension monétaire dans le cadre d'une politique de gauche. Ça, il faut être très très clair aujourd'hui. D'ores et déjà, on voit que le discours de l'UMP sarkozyste est en train de perdre de sa crédibilité très rapidement. Il va y avoir un retour du balancier vers les socialistes, et tout dépendra de la nature du discours qu'ils tiendront. S'ils continuent de développer un discours lénifiant sur l'Europe, qui présente l'Europe en fait comme la somme des bonnes volontés et non pas comme un combat, et parfois un combat violent du point de vue de la construction des institutions, alors, d'une certaine manière, ils vont, eux, ouvrir ce véritable boulevard au Front National. Donc voilà, nous sommes dans une situation qui est assez complexe, qui est assez préoccupante, et c'est pour cela que je dis que les enjeux politiques de l'élection de 2012 me semblent tout à fait considérables.
Et voilà, c'était la deuxième partie de l'entretien réalisé le 12 janvier avec Jacques Sapir, qui est directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. À bientôt.